La France bouge, c'est jusqu'à 14h. Raphaël Duchemin, et tout de suite, on retrouve Elisabeth Assayag pour sa solution du jour.
Oui, pour adopter une poule et la sauver de l'abattoir, figurez-vous. On va lui changer son destin, Elisabeth. C'est la solution avec l'association Poule pour tous.
Oui, Poule pour tous est née à Nantes et elle sauve les poules. Tous les 18 mois, les élevages envoient leurs poules à l'abattoir parce qu'elles ne sont plus assez productives. Alors, pour éviter que ça se termine ainsi, il y a d'autres solutions. Vous pouvez les adopter, surtout qu'il leur reste en moyenne 3 ou 4 ans de ponte à faire. Pour les adopter, c'est très simple. Vous les commandez sur le site de Poule pour tous. Vous payez tout sur le site internet. Comptez environ 7€ plus les frais de port. Bon, il ne faut pas la garder dans un appartement. Une poule a besoin de verdure, d'espace. Mais dans un jardin, pas de problème. Bonjour Thomas Dano.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Poule pour tous. Comment est née cette aventure de poule ?
Cette aventure, elle est née un 18 février 2017, où en fait un éleveur devait faire partir 7500 poules à l'abattoir. Et je savais que quelques personnes autour de moi cherchaient des poules. Et en fin de compte, plutôt d'en acheter 1, 2, 3, 10, 15, 20, on en a acheté 1000. J'étais avec mon frère, on a tout, on a chargé dans un camion, puis on a ramené chez nous. Les parents étaient ravis.
Vous avez de l'espace ?
On a suffisamment d'espace
tant
à la
mieux.
Maison. Et voilà. Et en fait, on s'est lancé dans une campagne d'adoption et on a mis 6 semaines à faire adopter toutes ces petites poules qui demandaient qu'une chose, c'était de continuer de pondre pendant 3 ans, comme vous l'avez dit. Et puis aujourd'hui, on a les retours, on a les photos qui reviennent, on a tout pour voir que les poules n'étaient pas super canon quand elles sont sorties de chez nous. Parce que dans les élevages, elles se battent. C'est un peu compliqué de temps en temps.
Elles n'ont pas d'espace. Toujours.
Elles ont de l'espace, parce qu'on prendra que des bio et des plein air.
D'accord.
Mais elles sont quand même un peu esquintées. Et en fait, 6 mois après, elles sont magnifiques. On a l'impression que c'est une jeune poule. Elle a retrouvé toute sa vigueur. Elle continue de pondre. Les familles sont heureuses et c'est parfait.
Alors, comment vous les livrez, ces poules ? Donc, d'abord, on va sur votre site internet, Poule pour tous.
Exactement. Ça se fait en plusieurs temps. On a monté une super storytelling
sur le site. On choisit sa poule ou pas sur le...
Oui.
Ouais.
Alors, le choix, il est assez rapide parce qu'il n'y a quasiment que des rousses.
Bon.
Donc
bah
vous
voilà.
Choisissez une rousse.
Elles ont des prénoms ?
Alors chez nous, elles s'appellent toutes Paulette. Parce qu'on est rendu à la 20 000e. Et si j'avais dû tous les retenir, c'était pas possible.
D'accord.
Donc pour nous, c'est Paulette. Et donc vous allez sur le site, vous achetez Paulette. Vous la mettez dans votre panier. Vous pouvez acheter les poulaillers, les enclos, la nourriture, les mangeoires, à boire, tout ce qui va aller avec. Et quand vous serez dans votre panier, vous choisissez soit de récupérer dans un point relais. Donc on en a un peu partout en France.
Des points relais de poules ?
Ouais. On a monté tout un système de points relais pour que les gens puissent aller chercher à côté de chez eux. Et donc, vous choisissez votre point relais ou alors en livraison à domicile directement chez vous. Il y aura forcément un supplément parce qu'on fait plus de route, mais tout est possible.
Mais vous avez des partenariats avec des éleveurs ou vous faites comment pour les récupérer pour qu'il y ait un bon roulement ?
Au début, c'était un peu compliqué parce qu'on n'était pas connus. Et puis, quelqu'un qui va voir un éleveur en lui disant « Bon, voilà, vous avez 2000 poules. Bon, c'est super, moi, je vous les prends toutes. » Ça fait un peu peur à l'éleveur. Donc on a dû faire notre nom au fur et à mesure, puis passer par des plus petits lots dans un premier temps. Et aujourd'hui, on travaille avec 15 d'éleveurs, sauf que comme ils partent une fois par an en réforme à l'abattoir, c'est-à-dire qu'on est obligé de changer d'éleveur tout le temps. C'est-à-dire que là, on va partir pour le 29 septembre, on sera à Tizac, à côté de Bordeaux, dans le 33. Et là-bas, on a 1500 poules qui nous attendent. Donc on va en faire adopter la plupart là-bas, et après on va les ramener sur Nantes et dans les relais.
Le tour de France des poules.
Exactement, parce que nos relais font Brest, Strasbourg et Lille, Marseille. Donc on fait toute la France.
Riyad, le coach ?
Moi j'aime bien l'idée de faire une petite extension de vie de 3 ans pour une poule, de lui redonner des conditions décentes au moins jusqu'à sa mort et de pouvoir profiter des œufs. Mais alors moi j'ai un jardin, j'ai une maison, j'ai compris que vous vendiez tout l'équipement, etc. Quand je pars en vacances, je pars avec ma poule ou je peux la laisser ?
C'est comme vous voulez.
Elle peut être autonome pendant 15 jours, un mois, poule ou pas ?
Exactement, vous allez pouvoir la laisser, vous remplissez à fond la mangeoire et l'abreuvoir. L'abreuvoir, vous pouvez en mettre 2 ou 3 parce que ça consomme énormément d'eau, surtout en été si vous partez. Et la poule va être autonome. Donc elle va manger, tous les jours elle fera un œuf. Et voilà. Et au pire, si vraiment vous avez un peu peur pour vos poules, ce qui arrive dans certaines familles, vous demandez à vos voisins de passer pour vérifier. Et en échange, il prendra les œufs. Puis c'est
d'accord,
tout.
Donc c'est un œuf par jour.
Un œuf par jour.
J'ai une boîte d'œufs par semaine. Quoi.
C'est ça. Parfait. Sachant qu'il faut toujours en avoir minimum 2 des poules, parce que c'est sociable. Et si jamais elles ne sont pas 2, elles peuvent, entre guillemets, faire une dépression.
Et après, ça coûte cher en psychologue.
Exactement, exactement.
Thomas, il y a quelque chose qui se passe avec les poules en ce moment, parce que je me souviens que l'année dernière, on a reçu aussi Poulaouse. On est dans cette démarche de protection. Il y a eu un réveil des consciences.
Je pense qu'il y a eu un réveil des consciences, et puis contre aussi cette, entre guillemets, cette obsolescence programmée, parce que la poule, à 6 mois, commence à pondre, on la met dans un élevage jusqu'à ses 18 mois. À 18 mois, on lui tord le cou. Alors qu'elle est encore apte à pondre pendant 3-4 ans. Donc à un moment, je pense que le consommateur en général se dit qu'il y a quand même, entre guillemets, des richesses qui sont non exploitées et qu'il faut continuer de garder pour peut-être moins produire de poules dans les laboratoires.
Et même si elles pondent moins, l'œuf reste de qualité ?
Oui, il est super bon.
Vous avez convaincu.
Il n'y a plus qu'à goûter.
Il n'y a plus qu'à goûter.
Voilà, Riyad a un jardin. Donc,
exactement.
Merci Thomas Dano. Ça s'appelle Poule pour tous et c'est la solution aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 57. Europe 1.
Vous restez avec nous et on va ouvrir un débat avec vous sur la transparence, celle des salaires, celle des prises de décision aussi en entreprise. On vous attend 3921 et Twitter.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
3921 Twitter, vous avez comme chaque jour la parole. Venez nous dire sur Europe 1 si vous êtes favorable à plus de transparence en entreprise. C'est un des thèmes qui fait débat aujourd'hui aux universités d'été de l'économie de demain. Mais demain, ça se prépare. Alors vous allez voir que déjà aujourd'hui, certains ont fait le choix d'ouvrir leur entreprise et de faire disparaître l'opacité. C'est le cas chez vous, je crois. Gilles Sadjet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez 56 ans. Vous êtes le PDG de Luca. On dit Luca ?
Luca.
Luca, avec deux C. Votre start-up fabrique des logiciels pour les services de ressources humaines. Et vous travaillez donc sur les congés, les salaires, les notes de frais, bref, tout ce dont on ne parle pas forcément très ouvertement dans une entreprise. Aujourd'hui, vous avez 150 salariés. Bientôt, vous en aurez 200 à la fin de l'année. Vous avez fait le choix, quasiment depuis le début, de manager autrement. Racontez-moi pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre de la transparence à tous les étages.
Alors, ce n'est pas vraiment une décision, en fait. C'est plus
imposé.
Subi. Ben, dès le départ, on était 4, donc là, on n'allait pas se cacher nos salaires entre
4
personnes.
4 associés.
Voilà, les 4 associés fondateurs. Et puis, on a recruté. Et puis, pourquoi cacher ? Et puis, on s'est rendu compte que ne pas cacher, finalement, ben, c'était pratique, c'était simple. C'est moins compliqué de ne pas cacher que de cacher. Et puis qu'il y avait des avantages annexes et quelques inconvénients. Mais
Quels avantages ?
Alors les avantages, c'est que bon, ben déjà on est ouvert, on est cohérent, on est ouvert avec les salariés, on ne cache rien. Et puis surtout quand on a 150 salariés, il faut éviter des disparités salariales non fondées sur des critères objectifs. Et là, comme chacun connaît le salaire de tout le monde, dès qu'il y a un problème de disparité salariale, on le sait et on va pouvoir corriger assez vite.
Donc vous avez, dès le début, dupliqué le système à tous vos collaborateurs. Vous dites collaborateurs d'ailleurs ?
Oui, collaborateurs, oui. Donc quand les gens arrivent, quand on les recrute d'ailleurs, il y a un entretien de recrutement, il y a un grand oral en fait, une sorte de rituel chez nous. Le salarié est devant une dizaine de collaborateurs, enfin le futur salarié est devant une dizaine de collaborateurs. Et là, on lui demande combien vaux-tu ? Et là, il va indiquer le salaire qu'il demande pour rentrer chez nous.
Et c'est généralement le salaire que vous fixez ou pas ?
Alors, généralement, c'est le salaire qu'on fixe parce que généralement, les salariés se renseignent avant, les candidats connaissent plus ou moins leur valeur de marché. Et nous aussi, on la connaît. Et généralement, quand il y a coïncidence, on recrute. S'il n'y a pas coïncidence, on propose un autre salaire et le salarié, le candidat,
le
décide
ou pas.
Ça, c'est le recrutement.
Ça veut dire que ça enlève peut-être pas tous les tabous, mais quand même pas mal de tabous dans l'entreprise.
De connaître
le salaire de son voisin.
Oui, je pense que ça donne une ambiance un peu plus libérée, on va dire. C'est le terme.
Alors, je crois qu'il y a 4 ans, vous avez même choisi d'aller encore plus loin. Parce que vous leur avez demandé de fixer eux-mêmes leur salaire. Ça change quoi ? On s'évalue. Pour le coup, on se dit vraiment, je vaux tant. Est-ce que j'ai progressé ? Est-ce que je mérite une augmentation ?
Alors voilà, donc effectivement, là, on a pris une décision pour les salariés qui ont plus de 3 ans d'ancienneté. On leur permet de fixer leur salaire. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en cas de désaccord sur le salaire, c'est le salarié qui a le dernier mot. Et il y a 2 règles pour que ça fonctionne. La première règle, c'est que le salarié doit faire référence à sa valeur de marché, non pas à ce qu'il apporte à l'entreprise, ça serait trop subjectif, mais à sa valeur de marché. Là, on peut discuter. Il peut aller faire une candidature chez un de nos concurrents et puis dire, regarde, voilà. On m'a proposé ça. Ça, c'est la première règle.
C'est arrivé ?
Oui, c'est arrivé. Ça arrive, en fait.
Et alors,
systématiquement.
Qu'est-ce qui se passe ?
eh ben, ça lui permet de respecter la deuxième règle qui consiste à fixer son salaire publiquement. C'est-à-dire tous les gens qui ont plus de 3 ans d'ancienneté, c'est-à-dire 25 personnes l'année dernière, 40 personnes cette année, se rassemblent et annoncent publiquement leur nouveau salaire. En d'autres termes, la négociation salariale finale se fait publiquement. Donc voilà, deux contraintes, la valeur de marché et tout se fait publiquement.
Riyad, je vois que vous avez envie de réagir.
Je suis très perplexe moi, là-dessus parce que je ne sais pas jusqu'où ça va. Déjà, j'ai une première question à vous poser. Vous êtes dans l'informatique, vous avez des ingénieurs de développement. Comment on paye mieux le bon, celui qui est impliqué, celui, est-ce qu'on peut le faire dans votre système ou c'est
le
un système un peu
système
communiste dans lequel on est finalement à une moyenne que comme on se fait regarder par les autres, on a tendance peut-être à le minimiser et peut-être à pas être épanoui avec son salaire. Quoi.
Oui, c'est une bonne question. Alors comment ça se passe? C'est le salarié qui fixe son salaire. Donc, en gros, quand on fixe son salaire, on le fixe avec son supérieur. On veut que son supérieur soit d'accord, parce que pour éviter un conflit public. Donc, en fait, la veille, on va discuter avec le manager. Je vais demander tant, est-ce que tu es d'accord ou pas?
D'accord.
Et si le manager n'est pas d'accord, il y a déjà...
Une forme de conciliation pour éviter de se retrouver devant une situation de blocage.
Voilà, et de laver, et en public. Droit, ouais, voilà, le salarié ne veut pas ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on fixe par rapport à ses collègues de même niveau. C'est-à-dire que si on demande 1000 euros de plus que son collègue, qui a le même job, même expérience, il va falloir aussi s'expliquer avec son collègue.
Ça veut dire qu'il va falloir trouver les arguments pour montrer les éléments de différenciation.
Voilà. Et un argument, pour répondre à la question sur les développeurs, c'est la compétence. Alors après, on rajoute ça, on a un système d'évaluation aussi qui permet aux salariés de se positionner les uns par rapport aux autres. Donc, tous ces paramètres font que ça fonctionne plutôt bien.
D'accord.
Elisabeth, c'est vrai que l'entreprise française reste un lieu où on ne parle pas ni salaire, ni politique, ni religion, et évidemment très peu de sa vie privée.
Mais oui, on connaît beaucoup de choses sur les uns, sur les unes, mais il y a des domaines qui restent complètement tabous. 83% des salariés estiment que parler salaire avec leurs collègues, c'est tabou, et quand ils en parlent, c'est au moment où ça va mal. Donc là, c'est trop tard. 78% ignorent le salaire de leur manager. Et en dehors des plus hauts salaires qui font l'objet, là, notamment pour les entreprises du CAC 40, de publications, des rapports annuels d'activité ou de ce qui est publié, on connaît là le salaire des 10 cadres dirigeants les mieux rémunérés. Ça, c'est pour les grandes entreprises. Si 78% des salariés ignorent le salaire de leur manager direct, il y a tout de même plus de la moitié d'entre eux qui aimeraient bien le connaître pour pouvoir peut-être se situer. En fait, les seuls salaires dont on parle sans gêne, ni réserve, aussi bien dans l'entreprise qu'à la maison qu'avec les copains, ce sont souvent les salaires des joueurs de foot.
Eh oui, et qui sont souvent mirobolants. Question pour vous, Gilles Sadje, vous faites quand même des logiciels précisément qui parlent de ces questions-là pour aller cacher toutes ces choses aux salariés. C'est
pour les montrer, parce qu'on a justement... nous, c'est un peu le contraire. On fait les logiciels pour ceux qui les utilisent et non pas pour ceux qui les achètent. C'est un de nos slogans.
Et vous essayez de les inciter à faire comme vous.
Et on a un soft qui permet, si on veut, d'ouvrir le détail des salaires à chaque collaborateur. D'ailleurs, bon, chez nous, c'est ce que les gens utilisent pour savoir le salaire de quelqu'un. Ils tapent son nom et hop, il a tout l'historique, les primes, etc. Voilà, c'est la transparence absolue sur les salaires.
Il y a moins de tension. Vous ressentez chez vous, il y a moins d'absentéisme, moins de revendications?
Alors, personne n'a envie, enfin, quasiment personne n'a envie de cacher son salaire. Le seul cas où les gens ne sont pas à l'aise avec ça,
c'est quand ils ont des privilèges.
C'est les nouvelles recrues qui sont expérimentées. Généralement, on recrute beaucoup de débutants, donc là, ça ne pose aucun problème. Mais quand on recrute un cadre qui a 10 ans d'expérience ou 15 ans et qui va arriver avec un salaire de 100, 150 000 euros, à comparer avec des salaires d'entrée qui sont autour de 40 000 euros, alors la pression, elle est sur le haut salaire. Donc si quelqu'un doit s'en plaindre de ce truc-là, c'est les gros salaires.
On reste ensemble et on continue à parler transparence avec vous. Appelez-nous 3921 dès maintenant et Twitter sur Europe 1.
La France bouge avec Raphaël Duchemin, c'est jusqu'à 14h avec un dossier du jour consacré à la transparence dans les entreprises. Souhaitez-vous plus de transparence dans votre entreprise? Si oui, dans quel domaine? Dites-le-nous en nous appelant au 3921, c'est votre numéro, 50 centimes la minute. Écrivez-nous également sur Twitter, @ou #Europe1, Raphaël.
Connaissez-vous le groupe InnovOn? Il existe depuis 23 ans et c'est à Nantes que le siège social se trouve. À l'intérieur,
Eh bien, figurez-vous qu'on prône ce qu'on appelle le concept d'entreprise libérée. Bonjour Jérôme Jambu.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous avez 48 ans et vous êtes vous-même co-animateur du groupe. Co-animateur, c'est vrai que c'est une fonction assez inhabituelle. On n'entend pas ça tous les jours. Racontez-moi, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ?
Qu'est-ce qui se cache, c'est que j'ai fait le pari avec les autres co-animateurs du groupe il y a près de 10 ans, de se dire qu'un chef pensait que son équipe était à son service, alors qu'un leader, un animateur, il est plutôt au service de son équipe. Donc je considère qu'aujourd'hui, je suis au service de mes 400 équipiers.
Donc votre titre exact, c'est directeur général de Chronoflex, mais vous vous dites « je suis co-animateur ».
Je suis co-animateur du groupe et directeur général, c'est le mandat que j'endosse.
C'est une approche qui n'a rien à voir avec ce qui se fait ailleurs. Votre slogan de gouvernance, je crois, c'est « confiance, responsabilité et autonomie ». Ce sont les trois piliers essentiels.
Trois mots-clés, la confiance, la responsabilité et l'autonomie.
C'est-à-dire que chacun, chez vous, dans le groupe InnovOn, gère son temps, gère sa manière de travailler, on lui laisse véritablement toutes les clés.
De principe, la confiance est de rigueur dans l'entreprise. Dès que la personne a mis un pied dans l'entreprise, la confiance est de rigueur. La confiance, elle est entachée à partir du moment où la personne commence à mettre le pied sur une de nos valeurs. Donc l'entreprise est construite autour d'une vision, le « engager ensemble pour un monde meilleur » qui a été co-construit par l'ensemble des équipiers du groupe. Et nous avons quatre valeurs, dont certaines valeurs limites, qui sont partagées à l'embauche de tout nouvel équipier et qu'ils savent dès le début.
Donc ils signent une charte finalement.
Ils signent une charte d'engagement autour de notre vision et de nos valeurs.
D'ailleurs, vous ne dites pas collègue, hein. Vous dites
équipier. Équipier. Je parle
parce
de mes équipiers.
Parce que c'est vraiment l'esprit d'équipe.
On est une équipe, engagée ensemble pour un monde meilleur, c'est déjà notre vision qui a été co-construite par les équipes. Donc oui, je parle d'équipier.
Vous avez essayé d'inverser la pyramide, c'est ça, on peut dire les choses comme ça?
On a écrasé la pyramide il y a 10 ans.
Les décisions n'arrivent pas d'en
Exactement.
Haut, elles viennent de la base.
Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que ce sont les hommes de l'art et l'apostrophe ART qui ont aujourd'hui le plus d'importance dans l'entreprise. Ce sont ceux qui dégagent la valeur ajoutée qui ont le plus d'importance dans l'entreprise.
La créativité.
Donc je considère que je me dois d'être au service de ces équipiers.
Le coach, Riyad Boulanoir.
Je trouve ça super, mais est-ce que ça marche avec tout le monde, le fait de donner l'autonomie et la responsabilité? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin tout simplement d'être dirigés, quoi?
Il y a des personnes qui ont besoin, il y a des personnes qui l'expriment, il y a des personnes qui le disent, et il ne faut surtout pas forcer les choses. Donc forcément, il y a des personnes qui ont besoin d'être drivées, qui ont besoin d'avoir des tâches, qui ont besoin d'avoir d'une liste de courses, comme on va l'appeler tous les matins.
Clairement.
Et c'est partagé comme tel avec les team leaders, et ça nous va bien.
Oui, ce n'est pas interdit. Hein.
Ce n'est pas interdit.
Ils ont le droit de dire, moi je préfère être...
Imaginez recruter un technicien qui arrive de l'armée, qui a fait 15 ans d'armée, qui intègre l'entreprise, découvre l'entreprise dite libérée, et qui découvre la vision du groupe... Il viendra chez nous parce qu'il cherchera une culture, il cherchera un métier, il cherchera une nouvelle aventure, et puis il trouvera potentiellement quelque chose qu'il n'avait pas découvert et qui lui va bien.
Dites-moi, Jérôme Jambu, est-ce qu'on peut tout changer partout, dans toutes les entreprises, ou est-ce qu'il y a des entreprises où c'est plus compliqué? Vous, dans votre domaine, c'est assez simple, ça le serait moins si on touche à d'autres types d'entreprises?
Non, je pars du principe qu'à partir du moment où les dirigeants d'entreprise ont décidé et qu'ils se sont appropriés ce chemin, je pars du principe que c'est le dirigeant qui doit donner le cap. Et que dès que le dirigeant a donné le cap, on parlait tout à l'heure de mon collègue à côté, voire de notre coach présent ici, à partir du moment où la posture du dirigeant est plutôt une posture agile, et plutôt une posture basée sur la confiance, et plutôt une posture basée sur l'autonomie, l'autodirection, je pars du principe que les équipiers n'attendent que ça.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé d'autres entreprises qui pratiquent justement cette politique de transparence.
Oui, vous avez Infusio qui existe depuis 2 ans et demi, c'est une société de conseil qui existe depuis 14 ans tout de même, et la transparence sur les salaires a toujours été présente au sein de cette entreprise. Eux aussi, depuis 2 ans et demi, chacun détermine sa rémunération. C'est-à-dire qu'ils font une réunion, tous les 4 mois, ils ont une réunion durant laquelle sont évoqués les salaires. Il y a un premier tour de cercle. L'équipe prend un temps de pause, de réflexion, en petits groupes. Et toutes les demandes sont faites en conscience des paramètres de la santé de l'entreprise, des chiffres de l'entreprise. Il y a 15 salariés, par exemple, au sein de cette entreprise. Et je me demandais si c'était peut-être plus facile sur des structures de petite ou moyenne taille.
Alors, c'est le cas chez vous et vous êtes 400.
Et on est 400. Alors, le processus sur le projet de rémunération, on a un projet de rémunération qui a été co-construit par les équipiers. Le système de rémunération actuel, salaire de base, système de rétribution, de primes individuelles et de primes collectives, a été co-construit par les équipiers. Par contre, Par contre, aujourd'hui, dans ce processus, il a été évoqué, décidé collégialement parlant, de ne pas partager visuellement les salaires, de ne pas partager visuellement les augmentations pour
mais
le
chacun
moment.
A voté, chacun a mais décidé, chacun a voté dans ce sens-là. Démocratique.
Donc aujourd'hui, les équipiers du groupe Innovon, ils voient les primes individuelles, ils voient les primes collectives, ils voient les performances individuelles, ils voient la rentabilité, ils voient de façon nominative.
Mais pas le
donc,
salaire.
Mais ils ne voient pas le salaire.
Et quand une
c'est un choix collectif.
Décision est prise, quand elle est validée de cette manière-là, elle est forcément moins contestée, moins contestable.
C'est beaucoup plus facile de faire prendre une décision par un collectif. Alors le collectif représentatif chez nous, c'est une quarantaine ou 50 équipes représentatives dans le groupe Innovon. On part du principe qu'une décision stratégique sur un projet stratégique, il nous faut au minimum un référent, un représentant par équipe qui a été élu, coopté par son équipe et qui sera le représentant de la décision collective.
On reste ensemble et on continue à parler transparence aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27. Europe
1. Demain, l'entreprise sera-t-elle transparente à tous les étages? Pour ça, il faut d'abord convaincre. C'est ce qu'essaie de faire notre invitée suivante, à la tête de Talentis. A tout de suite.
La France bouge avec cet après-midi un dossier sur la transparence dans les entreprises. Transparence dans les salaires, dans les prises de décision. Êtes-vous pour? Dites-nous ce que vous en pensez via Twitter, @ou #Europe 1 ou en nous appelant au 3921. Raphaël.
Faire changer les mentalités, vaste débat en France, parce qu'ailleurs, en Europe, la transparence va plus souvent de soi. Chez nous, donner son salaire, c'est vrai, on l'a dit, hein, Elisabeth, c'est tabou, on attend les décisions et bien souvent, elles sont commentées dans les couloirs. Bonjour Valérie Rocoplan.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Talentis, une société de développement de leadership, hein, c'est comme ça qu'on dit. Et votre credo, c'est le management de demain doit être transparent. C'est quoi finalement la transparence si on doit donner une définition aujourd'hui?
C'est le courage de dire les choses, c'est le courage de partager la responsabilité des décisions de l'entreprise, c'est le courage d'être soi, ce qui est assez nouveau dans l'entreprise, et c'est la détermination absolue de l'ensemble des collaborateurs de faire de l'entreprise une expérience collective.
Ça signifie que vous, votre travail aujourd'hui, c'est de passer dans les entreprises pour essayer de faire prendre ce virage-là?
Alors, pour être tout à fait honnête, il y a très peu d'entreprises qui affichent officiellement, on travaille qu'avec des grands groupes, hein. Officiellement, c'est ce désir d'aller vers plus de transparence, mais le mouvement est un mouvement de fond qui vient du bas. Les clients, déjà, qui ont un énorme impact dans la qualité de la transparence des informations, mais surtout les salariés, et on en parlait... Et on peut en parler, les salariés qui arrivent, mais les salariés aussi qui sont là, qui demandent des informations sur les décisions. Et donc, les grands groupes s'y mettent progressivement. Ça a déjà été sur la partie RSE, tout ce qui est information sur mon économie, ma responsabilité sociale, environnementale.
C'est-à-dire mais qu'on ça... demande des comptes aujourd'hui alors qu'on ne le faisait pas avant.
Oui,
on n'osait pas le faire
on
avant.
On demande des comptes entre guillemets, mais vous connaissez probablement le Glassdoor, qui est une application et un site sur lequel les salariés, les collaborateurs... vont aller noter le TripAdvisor de l'entreprise, donner des commentaires sur l'entreprise, sur les collaborateurs, sur les dirigeants. Donc, je prends Glassdoor comme exemple, mais il y en a tout un tas d'autres options.
Je ne connaissais pas.
Vous ne connaissiez pas?
Non. Vous connaissez autour de la table?
Oui, je connaissais. Oui. Ben, si vous voulez savoir ce que les collaborateurs pensent d'Europe 1, vous allez directement sur Glassdoor Europe 1. Vous saurez ce qu'ils pensent de la stratégie du dirigeant, ce qu'ils ont comme question habituellement durant les entretiens de recrutement, ce qu'ils ont comme question sur leur salaire. Ils peuvent aussi voir tous les salaires qui ont été postés. Glassdoor a révolutionné la notion de transparence, non pas pour tous les gens qui, en général, dans l'entreprise, ne connaissent pas son existence, mais pour les nouveaux venus, qui ont moins de 30 ans, qui connaissent parfaitement cette solution et d'autres, alors, et qui ont l'info plus que vous, parfois, sur la...
C'est assez étonnant. Vous dites les moins de 30 ans, on en parlait.
Ah, oui, oui.
Ça veut
eux,
dire
ils connaissent parfaitement
que
cette solution.
On est vraiment dans une question de génération.
Ouais, mais nous, on a des salariés, nous, et on applique cette solution de transparence chez Talentis nous-mêmes. Ils arrivent, ils connaissent l'entreprise, ils ont été voir toutes les vidéos, ils ont appelé des collègues pour savoir ce qu'ils gagnaient. Enfin, c'est quelque chose de générationnel. C'est un mouvement de fond. Et donc, les entreprises y vont. Et ça commence par le courage managérial dont parlait Jérôme avant. C'est un véritable courage. C'est pas simple. En fait, c'est pas simple du tout.
Votre métier n'existait pas il y a encore 15 ans?
Il y a 20 ans. Ouais. J'ai créé Talentis il y a 16 ans, donc on était dans une espèce de psycho-papouille métier. Aujourd'hui, le coach, il est, j'espère, un peu plus reconnu comme étant un véritable accompagnateur du changement et de la transformation. On agit bien sûr sur le développement personnel, mais aussi sur des changements culturels pour aider les dirigeants à vivre et les managers et les collaborateurs. Mm-hmm. Parce que je suis d'accord, tous les collaborateurs n'aiment pas forcément cette notion de transparence.
Et alors, c'est quoi le plus dur, justement, à faire changer les salaires?
Le plus dur, c'est d'apprendre à se dire les choses. Parce que les salaires, OK, c'est une chose, mais quand vous expliquez une décision d'investissement, quand vous demandez aux collaborateurs ce qu'ils pensent du recrutement d'une personne, chez nous, tout le monde est co-responsable du recrutement des gens qui arrivent. Quand vous... Il y a des gens qui se disent super, d'autres, non, j'ai pas envie, j'ai juste envie que tu me dises quoi faire, c'est pas mon job d'être co-responsable de la décision. Donc, c'est un vrai courage pour tout le monde, pas que pour les managers, pour les collaborateurs. C'est une notion de co-responsabilité. Et le courage de dire, c'est pour ça que toutes les entreprises et souvent les grands groupes aussi mettent en place beaucoup de programmes sur le feedback. Et nous, on y contribue énormément. C'est un mot anglais pour dire simplement dire les choses. Parce que c'est le cœur, en fait, c'est le cœur du réacteur.
Qu'est-ce que pense notre coach? Je le vois songeur, Riyad Boulanoir.
Prends des notes.
Moi, je suis songeur parce que je me demande à quelle mesure, à quel moment ça devient contre-productif. Le fait de partager l'information avec tout le monde, le fait d'être dans une forme de moyenne des moyennes, je crois qu'on est en train de se priver de l'audace. Oui. Parce que du coup, on va arriver sur une forme de consensus mou, une forme d'eau tiède. Moi, je l'ai essayé en tant que fondateur de Nickel, je l'ai essayé deux fois. J'ai essayé une première fois pour le visuel de la carte Nickel. Ça avait été très, très décevant. C'est-à-dire que le consensus avait été très décevant, alors que quelqu'un qui aurait pris la décision aurait été certainement beaucoup plus... Et ça a été raté, là, pour le coup. Et puis, une deuxième fois, là, c'était mon successeur qui a demandé de baptiser les salles de réunion. Et on arrive à Tokyo, Amsterdam, après deux mois de vote, quoi. J'ai envie de dire, si c'était pour faire ça, je pense qu'on aurait pu le faire, quoi.
Alors, complètement d'accord. La transparence n'est pas égale au consensus. C'est-à-dire que chaque univers de décision est bien délimité. Et on n'est pas en train de dire tout le monde décide de tout. En revanche, si je veux avoir accès à l'info sur pourquoi cette décision, je pourrais avoir accès et je pourrais potentiellement l'influencer. Mais évidemment, non. Toute décision n'est pas consensuelle. Sinon, c'est un, pas approprié, deux, c'est pas juste, tout le monde n'a pas les compétences, et trois, c'est une perte de temps et d'efficacité incroyable.
Et vous parliez de résultats contraires, justement, ça peut être le cas aussi, Elisabeth, sur la transparence salariale.
Oui, ça peut avoir des effets quasiment pervers, même créer de la frustration, parce que par souci de transparence, on demande par exemple aux grands patrons de publier leur rémunération, c'était pour tenter de mettre fin à l'envolée des salaires, des gros salaires des PDG, et justement, parfois, on a eu le contraire, parce que, par exemple, il y a des PDG du CAC 40 qui étaient moins bien payés, qui l'ont très mal pris, cette transparence. Quand ils ont vu que tel ou tel patron gagnait deux fois plus qu'eux, ils se sont fait augmenter. Donc, ça a créé l'effet inverse, même à des très, très hauts niveaux de responsabilité.
Et est-ce que toutes les sociétés peuvent faire cette transparence ou est-ce que c'est réservé à...
Moi, je pense que plus le métier, le cœur de métier est délicat,
sécurité,
plus c'est compliqué. Voilà, je pense à la sécurité, pense à l'armée, je pense même aux hôpitaux. Enfin, après, pour rejoindre ce que disait Jérôme, s'il y a une vraie volonté, on peut délimiter les zones de transparence. Ce n'est pas vrai qu'on peut être transparent sur tout. Il peut y avoir une entreprise où c'est les comptes de résultats qui est totalement transparent, une autre les salaires, une autre les décisions. On n'est pas obligé d'être transparent sur tous les éléments.
Justement, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important dans la transparence? C'est quoi qui devrait être le
plus
transparent?
Le plus important, c'est que ce soit décidé par un groupe de personnes et que la culture soit co-élaborée avec un groupe de personnes, un maximum de personnes, et qu'eux décident de quoi ils ont besoin comme info. Il y a 50% des salariés qui s'en fichent de savoir les salaires des autres, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc c'est intéressant, ça veut dire que c'est peut-être pas le levier de motivation de mes équipes. Donc où est-ce qu'ils ont envie d'avoir l'info? Chez nous, ils ont envie d'avoir l'info sur les marges, le chiffre d'affaires et savoir comment on construit notre business model. Donc, on les a formés là-dessus. Qu'est-ce que c'est que des marges? Qu'est-ce que c'est qu'un compte de résultat? Voilà.
On reste ensemble et on va débattre avec les auditeurs. Vous êtes sur Europe 1, il est 13h37.
Europe 1.
Prêt à donner votre salaire? Prêt à participer aux décisions de votre entreprise? À vous de nous le dire. 3921, Twitter, on vous attend. C'est la France qui bouge.
Europe 1.
Le dossier du jour dans la France bouge est consacré à la transparence dans les entreprises et c'est une question qui fait réagir nos auditeurs. Raphaël,
on va regarder ça dans un instant.
Dans un instant.
Nous sommes avec Valérie Rocoplan, fondatrice et dirigeante de Talentis, une société de développement de leadership. Nous sommes avec Jérôme Jambu, DG du groupe Chronoflex, mais surtout co-animateur du groupe Innove On. Et puis Gilles Sadger, PDG de la start-up Luca, chez qui non seulement on sait combien son collaborateur gagne, mais chacun fixe aussi sa rémunération. Et ça, après 3 ans d'ancienneté. Notre coach aujourd'hui, c'est Riyad Boulanoir. Et nous sommes évidemment toujours avec Elisabeth Assayag. On a un premier appel au 3921. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Marseille. Vous dites la transparence sur les salaires des patrons, pourquoi pas? En revanche, entre salariés, ça peut être problématique. Pour quelles raisons?
Bah parce qu'en fait, moi j'ai géré des sociétés où j'avais du personnel, alors pas 150 comme les personnes présentes, mais en fait, les salaires entre eux, ils les connaissent parce qu'ils en parlent. Donc, je vois pas trop l'intérêt d'être transparent dans ce sens-là. Et par expérience, je sais aussi que lorsque un chef d'entreprise donne son salaire à un de ses salariés, ça crée toujours des problèmes dans le sens où on a beau expliquer que en termes de responsabilité, en termes de danger, en termes de risque pris, ben c'est justifié par le salaire et du coup, il n'y a pas toujours les oreilles très attentives. Alors je ne suis pas pour l'obscurantisme complet ou l'opacité plutôt, mais par contre, trop de transparence, je pense que ça peut faire l'effet inverse.
Alors, qui a envie de réagir, Gilles Sedgé?
Il a parfaitement raison, au moins sur un point, c'est sur mon salaire. Et je suis obligé d'être très modéré parce que comme il est vu et observé par tout le monde à la loupe, ben je ne peux pas m'augmenter.
Le patron
autant
peut pas
je le ferais probablement si je pouvais le faire. En cachette. Donc ça, c'est le plus gros inconvénient.
Ouais, Jérôme Janvu, je voyais réagir aussi.
Ouais, si je peux compléter par rapport à mon intervention tout à l'heure et répondre à la question, je pense que toutes les décisions doivent être prises par le collectif. Et si une décision est prise de ne pas vouloir voir les salaires des autres et que c'est quelque chose qui va être contraignant, voire très, très compliqué pour beaucoup des salariés ou des équipiers, je pense qu'il ne faut surtout pas engager cette démarche de transparence des salaires. Et deuxième sujet, c'est concernant le salaire des dirigeants. Si c'est visible, c'est que l'ensemble des équipiers et l'ensemble des dirigeants l'ont validé. Et un dirigeant, il a son salaire comme n'importe quel équipier par rapport à sa fonction et son métier.
Je voudrais qu'on... Merci Hervé de nous avoir appelé au 3921. Je voudrais qu'on écoute quelques réactions qu'on est allé recueillir ce matin dans la rue au micro de Laetitia Farine.
Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 25 ans. Bah, ce qui serait intéressant, c'est comprendre déjà mieux, vous parliez des salaires tout à l'heure, comment est-ce que ça fonctionne ou est-ce que c'est à la tête du client. Expliquer aux salariés quel chiffre d'affaires est à faire, s'il est atteint, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas, comme des statistiques. C'est ce qui manque aujourd'hui, c'est l'interaction entre chef d'entreprise et salarié.
Pédagogie, résumé, Valérie Rocoplan.
C'est très intéressant ce que disait l'auditeur tout à l'heure, parce que c'est aussi important d'expliquer la vie d'un chef d'entreprise. Notamment, moi, j'ai remarqué avec stupeur que mes collaborateurs, parfois, ne savaient pas que je n'avais aucun chômage. Si la boîte fermait, je n'avais pas de sécurité. Alors, évidemment, il y a d'autres manières de se... Mais c'est étonnant, comme le monde du chef d'entreprise est inconnu, des salariés qui rentrent chez vous et qui pensent qu'ils ont... un chef d'entreprise qui est comme un dirigeant de grand groupe et c'est très important de faire de la pédagogie.
Riyad ?
Ouais, bah c'est en entendant là, les deux témoignages, je m'aperçois en fait, et quand on parlait tout à l'heure de transparence et on disait sur quoi on doit être transparent, sur combien gagne l'entreprise, combien gagne le salaire, enfin, quelles sont les charges payées, comment c'est quoi le business model, c'est ça que vous nous avez dit. Oui. J'ai l'impression qu'en fait c'est une conséquence de la pédagogie qui n'existe pas dans l'entreprise.
Exactement.
Où effectivement on a un chef d'entreprise qu'on dit donc, il est blindé, il roule en Jaguar, bon, le seul problème c'est qu'il a 45 ans et qu'il en paraît 65, que lui effectivement il dort pas et qui vit à la... Et qu'effectivement, ça se rémunère. Ça se rémunère,
donc,
ça s'explique.
Donc, ça allait contre les clichés que l'on peut avoir concernant le chef d'entreprise aussi.
Oui,
c'est comprendre la co-responsabilité qu'on peut avoir et que le patron, c'est pas toujours simple, la patronne.
Et j'ai l'impression qu'il manque beaucoup de pédagogie, plus que de transparence finalement, parce qu'aller dans le détail, ouais, certainement les deux, mais voilà, cette pédagogie entrepreneuriale, le fait de savoir, moi je me rappelle qu'au départ, j'expliquais aux gens que quand je leur donnais 1500 euros, ça en coûtait 3000 à la
exactement.
Boîte. Donc je voulais bien en donner 1600, mais ça en coûtait 3002, donc il fallait les faire rentrer à un moment, quoi. C'était exactement de la même façon et on voyait bien qu'ils découvraient. Ils découvraient des choses, ils découvraient comme, par exemple, de la TVA quand vous facturez, qu'effectivement, le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est pas son profit, mais il a fallu faire de la pédagogie et pas forcément une ultra-transparence, mais beaucoup de pédagogie en disant, en montrant les indicateurs à la fin, effectivement, et voilà où on en est.
On a des messages Twitter, Céline.
Oui, on a Thoman qui nous dit « Je vous invite à regarder le groupe Hervé avec son management concertatif. »
Vous connaissez manifestement.
Oui, oui, moi,
Valérie Rocoplan,
Jérôme. Oui, il est connu.
Et puis on a une question de Marc qui nous dit « Cette transparence dans les entreprises peut-elle à long terme être un levier pour résoudre le fléau numéro un, le chômage ?»
Ah, alors là...
Pas comment. Bon.
La transparence, l'idée, c'est quand les gens sont au courant de ce que font les autres, ils sont alignés, donc tout le monde tire dans le même sens. Donc, a priori, l'entreprise va être plus performante. Donc, c'est assez simple pour la performance de l'entreprise et donc, en théorie, pour la résorption du chômage. Ouais. L'idée d'être transparent, c'est, c'est d'abord pour être plus efficace collectivement, c'est pas pour faire plaisir aux collaborateurs.
Et si on fait le bilan global de votre transparence et du partage, on y gagne ou on n'y gagne pas quand on est chef d'entreprise ?
Bien sûr.
Oui, oui, pour vous, Valérie Rocoplan, oui.
Également,
aussi,
oui, on y gagne en fidélité, on y gagne en taux de turnover qui baisse, on y gagne en bonheur au travail, en engagement, en valeur d'engagement.
Même chose pour vous, Gilles.
Ben oui, et puis en plus, donc, pour les salariés qui ont plus de 3 ans, au moins, il n'y a pas de contestation sur les salaires puisqu'ils les fixent eux-mêmes. Donc au moins, ça, ce sujet est réglé. Quoi.
En tout cas, c'est un vaste débat qu'on a ouvert ici aujourd'hui. Merci à tous les trois d'être venus nous rendre visite sur Europe 1 pour parler transparence sur les salaires et aussi sur les prises de décision.
Il est 13h46.
Europe 1.
Et on reste ensemble. Dans quelques minutes, on va découvrir un savoir-faire. La maison qui arrive existe depuis 1901 chez Fournier et Fils. On est saleur-sorisseur. C'est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et tout de suite, Raphaël, c'est l'heure de l'entreprise qui va bien.
Oui, et cette entreprise, eh bien, c'est la maison Fournier et Fils. Bonjour Christophe Fournier.
Bonjour Emmanuel Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de cette maison qui est installée dans le Pas-de-Calais depuis 1901. Ça fait 4 générations que chez vous, on est saleur-sorisseur à Calais, à Boulogne. On est près de la mer, forcément, parce que c'est comme ça, en fait, hein, qu'a démarré l'histoire avec Germaine. C'est ça, votre arrière-arrière-grand-mère ?
Oui. Était saleur.
Alors c'est quoi saleur ? Ce sont les femmes au départ qui s'occupaient des poissons que les maris ramenaient après les jours de pêche ?
Tout à fait. Le mari était pêcheur et ramenait le poisson et c'était la femme qui s'occupait de la fumaison, du salage et de la fumaison du poisson.
On fumait le poisson pour que la conservation soit meilleure, soit plus longue ?
Alors déjà on le salait pour le conserver et on le fumait en plus pour le conserver aussi.
C'est ce que faisait votre arrière-arrière-grand-mère avec la pêche de votre arrière-arrière-grand-père. Ce n'était pas forcément une question de goût au départ, c'était simplement une pratique utilisée à l'époque.
Bah, il n'y avait pas les frigos, donc pour le conserver, il fallait le saler. Saler puis le fumer, forcément.
Pendant la guerre, l'activité de pêche s'est arrêtée parce que le bateau a coulé, je crois.
Voilà, le bateau a été coulé dans le port de Dieppe.
Hein, donc, on est à quelle époque ?
1945. Et donc c'est la mère qui a continué le métier de saleur sur 2 générations. Ça a été donc l'arrière-grand-mère, la grand-mère et après mon père et ma mère et mon frère et moi.
Donc d'abord un métier de femme.
Voilà.
Il a fallu trouver une nouvelle source de revenus en quelque sorte. Hein. C'est pour ça que l'entreprise s'est développée quand le bateau a coulé.
Oui, oui. Alors puis il y avait que la pêche du hareng à l'époque et puis maintenant les produits ont évolué sur le filet de hareng, le filet de maquereau. On a agrandi la gamme.
Le hareng, c'est ce qu'on pêche principalement du côté de Boulogne, de Dieppe. Aujourd'hui, vous avez diversifié. Vous parliez des maquereaux. Effectivement, c'est finalement un poisson de plus qui s'est ajouté. Ça a été le premier après le hareng ?
Tout à fait. Il y a eu le hareng entier, le filet de hareng, après le filet de maquereau. Voilà. Après, il est venu le flétan, il est venu le cabillaud. On a fait le dos de cabillaud, le filet lieu noir. Après, on a poussé au thon albacore. On a vraiment agrandi la gamme. Et d'un marché local calaisien, on est devenu un marché national.
Ça, c'est vos parents hein, qui ont fait ce saut-là en avant sur le marché national. C'est...
Tout à fait.
Qu'est-ce qui les a poussés
La consommation, on consommait moins en moins le produit en local. Il a fallu aller étendre son marché sur la nationale. Et il a fallu aussi faire évoluer les emballages. On est parti de gros conditionnements à du conditionnement libre-service. En faisant une évolution importante dans l'emballage, où en 2009, on a fait des emballages sous atmosphère modifiée. Et maintenant, en 2017, on est sur des emballages skin, ce qui est une peau sur le produit.
Vous êtes la toute dernière entreprise du secteur aujourd'hui. Je crois qu'il y en avait plus beaucoup. Il y en avait encore une cinquantaine après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Vous êtes combien ?
Sur Calais, on est la dernière entreprise à faire ce métier. Sur Boulogne, à faire vraiment notre gamme de poissons fumés, hein, la gamme hareng, filet de maquereau, on est encore 4 entreprises.
Aujourd'hui, tout ce que vous salez vient de France ou vous travaillez aussi des poissons qui sont pêchés ailleurs ? On a suffisamment de ressources ? C'est un débat dans la société, ouais. la ressource.
Non, rien ne vient de France. Tout passe par la France. Tous nos achats sont faits sur Boulogne. Mais ça vient de Norvège, d'Écosse, d'Islande, de Danemark. On n'est pas sur une ressource française.
Que dit notre coach ?
Je me demande, qu'est-ce qui a fait que finalement vous êtes passé de 50 entreprises à 4 ? Est-ce que c'est le fait que finalement le poisson vienne de Norvège, du Nord, et que c'est plus intéressant d'aller saler sur place ? Ou alors c'est des changements de consommation locale ?
C'est un gros changement de consommation.
D'accord.
Voilà. Le poisson, le hareng était mangé en très grosse quantité sur la région Nord-Pas-de-Calais avant.
Ouais.
Et puis après, il y a plein de produits qui se sont créés.
Il y a plus de saumon dans le fumet ou des choses comme ça.
Voilà, il y a le saumon qui est arrivé, mais il y a d'autres produits, comme le surimi qui a été créé, qui fait qu'on mange moins de ce produit, mais on en mange plus de d'autres.
Donc c'est la diversification des produits finalement fumés marins qui fait que le secteur d'activité de votre entreprise, ils ont réduit le nombre d'entreprises.
Voilà. Voilà. Et donc, il a fallu créer d'autres produits. Hein. Donc, on a créé le
être imaginatif, du coup.
Imaginatif, c'est ça. On a créé le dos de cabillaud fumé, qui n'existait pas en fumée. Mais on a créé aussi les bouchées de dos de cabillaud. Et là, on vient de créer le tartare de cabillaud.
Combien de produits vous avez aujourd'hui dans votre gamme?
On va avoir 38 références.
38 références. Et c'est votre frère qui travaille avec vous depuis 1993, c'est ça?
C'est ça. On est deux frères jumeaux, Stéphane et Christophe.
Aujourd'hui, vous faites une part importante, je crois, aussi à la préservation de la ressource, on en parlait, et puis à la gestion des déchets. Vous essayez au maximum de revaloriser. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour vous et c'est aussi un phénomène de société.
Voilà. On vient juste d'être labellisé entreprise pour un monde plus engagé. Et donc, dans notre concept, on fait une réduction de la pénibilité du travail. On a aussi une pêche aquaculture responsable. Et 70% de nos fournisseurs sont locaux.
Vous essayez aussi de faire beaucoup de redistribution pour qu'il y ait de moins d'invendus. Vous travaillez des systèmes qu'on connaît bien ici sur Europe.
Oui, c'est-à-dire que dès que nos produits arrivent en date plus courte, on les met dans des réseaux comme Too Good To Go, par exemple, où on essaye vraiment de valoriser tous nos produits finis. Rien ne va à la poubelle, on va dire.
4 générations, la cinquième est là déjà, elle
va
prendre la suite.
L'avenir
nous le dira. C'est la maison Fournier et Fils. Merci Christophe Fournier d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Riyad Boulanoir qui était notre coach. Nous, on se donne rendez-vous demain.
À demain,
Elisabeth.
Raphaël.